et à covoiturer.
France Inter, il est 8h. Le journal, Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour à tous. C'est un nouveau tournant au Moyen-Orient. Israël attaque massivement l'Iran. Site nucléaire visé cette nuit. Haut responsable militaire tué. Nous serons en direct de Jérusalem, à Téhéran, qui riposte déjà, et à Washington, car il s'agit là d'un revers cuisant pour Donald Trump. Dans ce contexte, la France reconnaîtra-t-elle un État de Palestine? La décision d'Emmanuel Macron approche et le suspense est total, vous l'entendrez. L'actualité ce matin, c'est aussi le collégien de Nogent, mis en examen et écroué pour le meurtre d'une surveillante. On va y revenir à 8h20 avec vos invités.
Ils viendront nous dire s'il y a chez les ados une épidémie de violence, comme l'affirme le président. Grand entretien consacré aux réseaux sociaux que le chef de l'État veut interdire aux moins de 15 ans. Nous serons avec Sabine Duflo, David Gourion et Amine Benyamina.
Une psychothérapeute et deux psychiatres pour une table ronde. Vos questions, vos interventions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou la appli Radio France.
À suivre aussi ces émeutes racistes qui continuent en Irlande du Nord. Le projet de loi simplification de retour à l'Assemblée, les macronistes pas très motivés et le réchauffement climatique qui pousse des agriculteurs bretons à cultiver des agrumes.
France Inter.
Ce ne sont pas les premières frappes israéliennes en Iran depuis le 7 octobre 2023. Mais cette nuit, l'État hébreu a clairement passé un cap. Offensive massive, 200 avions de combat engagés, une centaine de sites visés, les installations nucléaires iraniennes, notamment le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, de très hauts responsables militaires tués, le chef des gardiens de la Révolution, le chef d'état-major des armées. Bref, le cœur du régime iranien est attaqué. Partons d'abord pour Jérusalem. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour.
Alors comment Israël justifie-t-il ce matin cette soudaine escalade ?
Nous avons atteint un point de non-retour et nous n'avions pas le choix. Ce sont les mots ce matin du chef d'état-major israélien Eyal Zamir qui affirme donc que l'attaque massive de la nuit est une réponse à la menace existentielle que fait peser l'Iran sur l'état hébreu. Depuis des semaines, Washington et Téhéran négocient. Les premiers exigent que le régime des Mollahs mette fin à l'enrichissement de l'uranium. Les seconds défendent leurs droits souverains à développer leur programme nucléaire. Dans ce bras de fer, Israël assure ce matin que ses services secrets ont détecté des activités suspectes, laissant penser que l'Iran avait entamé la fabrication d'une bombe nucléaire. Impossible à vérifier évidemment, mais c'était donc la ligne rouge à ne pas dépasser pour l'armée de l'État hébreu qui prépare cette offensive depuis des années.
Et alors Thibault, est-ce qu'on peut parler ce matin du début d'une guerre ouverte ?
Alors Israël a déclaré l'état d'urgence, c'était cette nuit à 3h du matin, en activant les alertes dans tout le pays. Les écoles sont fermées, les rassemblements interdits, la population invitée à rester à proximité des abris et les dirigeants de l'état hébreu sont dans des lieux sûrs. C'est d'ailleurs de là que Benjamin Netanyahou s'est exprimé tout à l'heure pour la deuxième fois depuis le début de l'attaque.
Il n'y a pas de guerre gratuite. C'est pourquoi je vous demande de respecter à la lettre les directives du front intérieur. Vous allez peut-être devoir rester pour des périodes longues, plus longues que ce que nous avons connu, dans les abris.
Vous l'avez compris, la guerre ne fait donc que commencer. Les bombardements israéliens continuent. Le premier étage de la réplique iranienne est en cours avec une centaine de drones envoyés vers Israël et des interceptions en ce moment même au-dessus de la Jordanie, à l'est donc, avec le soutien de l'aviation américaine.
Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem pour France Inter. Oui, cette riposte iranienne déjà lancée, vous le disiez, à quoi va-t-elle ressembler cette contre-attaque de la République islamique alors que les frappes israéliennes se poursuivent encore à l'heure où l'on se parle. Des immeubles sont en feu à Téhéran, une cinquantaine de civils blessés selon la télévision d'État. Siavosh Ghazi est notre correspondant en Iran.
Le guide suprême iranien a promis une riposte dure contre Israël après la vaste opération qui a été menée dans la nuit contre l'Iran. L'armée israélienne a également frappé des sites nucléaires, le site d'enrichissement d'uranium et un autre site, Khandab, qui est dans le centre du pays, mais également des sites militaires tout au long de la frontière avec l'Irak, donc des positions plus proches d'Israël. des positions à partir desquelles apparemment avaient été lancés des missiles il y a quelques mois contre Israël, donc pour éviter justement donc une réaction iranienne. La question est de savoir si l'Iran dispose toujours des bases opérationnelles pour lancer des attaques, comme cela a été promis par les différents responsables iraniens. C'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui.
Les précisions de Siavosh Ghazi à Téhéran. La région s'embrase. Quel rôle ont joué et vont jouer les États-Unis ? Israël a pris l'initiative de ses frappes sans attendre un soutien américain. Et l'issue des négociations en cours sur le nucléaire entre Américains et Iraniens, elles doivent reprendre ce dimanche. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour à tous.
En direct de Washington. Washington où ce matin on dit avoir été prévenu mais pas associé à ces frappes.
C'est ça, Trump dit à la chaîne conservatrice Fox News ici que ce que son secrétaire d'État écrit dans un communiqué, qu'il a été prévenu à l'avance par Israël, que l'Iran ne peut pas avoir la bombe nucléaire et qu'il espère toujours des négociations avec Téhéran après ces frappes israéliennes. La prochaine étape, effectivement, de ces discussions sur le nucléaire iranien, c'est dimanche au Sultanat d'Oman. Dans les cinq lignes du département d'État, Marco Rubio confirme que l'Amérique a bien été informé mais n'est pas impliqué dans les frappes et le chef de la diplomatie écrit que tout est fait pour protéger les forces américaines dans la région avant de conclure. L'Iran ne doit pas s'en prendre aux intérêts des États-Unis. Trump réunit son Conseil de sécurité nationale demain matin ici à la Maison-Blanche. Ce sera en fin d'après-midi, heure de Paris.
Ouais, mais cette initiative israélienne est aussi une forme de désaveu pour lui, pour Trump.
Oui, parce qu'il donnait à la fois l'impression d'être conscient que de telles frappes pouvaient se produire. Il parlait encore hier du risque d'un conflit massif et en même temps, il assurait qu'il ne voulait pas que Benjamin Netanyahou intervienne, que ça risquait de tout faire capoter. Il faisait référence à ces discussions sur le nucléaire iranien, dont il espère donc qu'elles vont se poursuivre dimanche. À l'entendre, elles se passaient très bien, on était proche d'un bon accord. Non seulement Netanyahou ne l'a pas écouté, mais en plus, le sixième round de négociations avec Téhéran devient très certains. On verra aussi quel sera le rôle des États-Unis dans la défense d'Israël contre une riposte iranienne, là où Biden n'a pas hésité en octobre dernier quand l'Iran a lancé des drones sur son allié. Bref, pour l'instant, pour Trump qui promettait aussi la paix en Ukraine en 24 heures, souvenez-vous, voilà clairement, effectivement, un revers de plus.
Sébastien Paour à Washington. Conséquence aussi des événements de la nuit, les cours du pétrole bondissent de plus de 12% sur les marchés. Toute la région en alerte, la Jordanie et l'Irak annoncent aussi la fermeture de leurs espaces aériens. À suivre sur Inter l'analyse de Pierre Aski juste après ce journal. Et c'est donc dans ce contexte explosif au Proche-Orient qu'on attend la décision d'Emmanuel Macron. La France va-t-elle reconnaître un État palestinien ? Réponse le 18 juin lors d'une grande conférence à New York. Mais le chef de l'État pourrait en dire un peu plus dès cet après-midi lors du Forum de Paris sur la paix. Bonjour Julien Nenny.
Bonjour.
Le président a déjà publiquement envisagé cette reconnaissance, mais ces derniers jour, il envoie des signaux plutôt contradictoires et les négociations se poursuivent au plus haut niveau encore.
Oui, d'ailleurs, même pendant son séjour à Nice, en début de semaine, pour parler haute mer, pollution des océans et protection des cétacés, Emmanuel Macron poursuivait d'arrache-pied, selon l'Élysée, la préparation de cette conférence de New York. Coup de fil à Donald Trump et au président Sisi, SMS à l'émir du Qatar ou encore au Premier ministre saoudien. Car si le chef de l'État se démultiplie sur le front diplomatique, c'est parce qu'il le sait, mercredi prochain, ce qui se joue pour lui, c'est aussi l'essentiel de son bilan sur le si sensible dossier palestinien.
Mais dans le détail, Julien, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron met sur la table pour obtenir un accord ?
Alors, pour que la fameuse solution à deux États et la reconnaissance de la Palestine ne se transforme pas en mirage, Emmanuel Macron a confié à sa conseillère Moyen-Orient, Anne-Claire Legendre, une mission: rassurer Israéliens et Palestiniens. Cette diplomate expérimentée s'est ainsi rendue discrètement sur place au début du mois pour exposer à toutes les parties les intentions françaises: garantie de sécurité pour Israël, désarmement du Hamas, loi sur les prisonniers, révision des manuels scolaires, élections d'ici un an en Palestine sous supervision internationale. Autant d'exigences qui figurent en plus de la reconnaissance d'un État palestinien dans ce que le Quai d'Orsay appelle la corbeille, c'est-à-dire le projet de communiqué final à New York. On avance, on obtient des choses, assure une source diplomatique qui reste prudente sur la conclusion de ces négociations, car d'après nos informations, un pays notamment se montre réticent ces derniers jours le Royaume-Uni.
Et le verdict attendu donc mercredi prochain lors d'un déplacement au siège des Nations Unies. Elle est de retour d'Israël, d'où elle a été expulsée hier après-midi. L'eurodéputée LFI Rima Hassan, l'une des passagères du bateau pour Gaza, acclamée dans la soirée par ses soutiens Place de la République à Paris, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon notamment. Et elle prévient les autorités israéliennes, il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser le blocus de Gaza.
Inter, 8h10, c'est une quatrième soirée consécutive de tensions racistes en Irlande du Nord, Alexis.
Elles font tache d'huile, une nouvelle ville touchée, Porta Down, sud-ouest de Belfast, où des centaines d'émeutiers ont affronté cette nuit les forces de l'ordre. Alors qu'à Ballymena, où ces violences ont commencé lundi, la police raconte avoir dû évacuer des habitants d'origine étrangère qui se cachaient dans leur grenier et dans leur penderie pour éviter d'être pris pour cible. Ces émeutes ont éclaté après l'arrestation de deux adolescents qui seraient des ressortissants roumains pour la tentative de viol d'une jeune fille. Sur place à Ballymena, Clémence Pénard pour Inter.
Route barrée, véhicules blindés, les policiers s'étaient préparés à affronter une quatrième nuit d'émeute, surtout dans le quartier populaire de Clonavon, épicentre des violences, où réside Nigel, 63 ans.
On est tous à bout, épuisés par cette situation, c'est horrible. Il y avait des tensions récurrentes ici depuis quelques années avec les ressortissants roumains, liés à un gang criminel bien précis. Depuis lundi, tous les Roumains se sont enfuis. Ce qui se passe en ce moment, ça ressemble à un pogrom.
Et finalement, ce sont toutes les communautés immigrées qui ont été prises pour cible. Trois nuits de violence ont laissé des traces dans le quartier. Fenêtres cassées, portes enfoncées. Originaire des Philippines, Karen a préféré fuir.
C'était terrifiant. Ils ont lancé des pierres à nos fenêtres. Alors on s'est réfugié chez des amis. Il fallait qu'on trouve un endroit sûr pour notre petit garçon.
Et dans l'espoir que sa maison échappe aux attaques, elle est venue accrocher, comme beaucoup d'autres habitants du quartier, un drapeau britannique à sa porte. Ailleurs, en Irlande du Nord, d'autres troubles mineurs ont éclaté dans la ville de Portadown ainsi qu'à l'est de Belfast.
Clémence Pénard en Irlande du Nord. Aux États-Unis, une première victoire pour les démocrates dans leur bras de fer avec Donald Trump en Californie. La justice fédérale annule ce matin la décision du président de mobiliser la garde nationale contre les manifestants de Los Angeles. C'est le gouverneur de l'État, Gavin Newsom, bête noire de Trump, qui avait saisi les juges. La Maison-Blanche dénonce ce matin une ingérence extraordinaire. Le bilan monte à 265 morts en Inde après le crash de l'avion d'Air India hier matin au décollage sur un quartier résidentiel d'Ahmedabad, dans l'ouest du pays. On a appris hier soir qu'un passager avait miraculeusement survécu. Il s'agit d'un Britannique d'origine indienne. On compte aussi une vingtaine de victimes dans l'immeuble sur lequel le Boeing 787 s'est écrasé.
C'est l'un des très rares textes portés par le gouvernement en ce moment.
Oui, malgré l'absence de majorité, le projet de loi simplification pour, selon ses partisans, lever les freins à l'activité économique. Ses détracteurs y voient plutôt un détricotage en règle des protections environnementales. Il est examiné depuis plusieurs semaines par petits bouts à l'Assemblée, qui a déjà voté par exemple la fin des zones à faible émission. Le voilà de retour aujourd'hui dans un hémicycle peut-être très clairsemé, notamment du côté des macronistes qui ne se bousculent pas, Laurence Perron, pour le défendre.
Cette loi est manifestement devenue une épreuve, même pour ceux qui président les débats.
Pour 57 !
Là, on est en clôture de la dernière séance, le 28 mai dernier, le macroniste Roland Lescure.
Contre 52, on a enfin adopté quelque chose ce soir, c'est l'article 17.
Avec ses 30 articles, traitant de domaines aussi divers que l'implantation des antennes relais, la suppression des ZFE, l'autorisation des data centers ou les relations avec l'administration fiscale, même les députés les plus zélés abdiquent. La gauche dénonce à chaque prise de parole un texte fourre-tout et mal ficelé. L'écologiste Benjamin Lucas lundi.
On fait la loi pour l'intérêt général et pour répondre à des problématiques. Pas pour caser ses obsessions. Pas pour dire, regardez, je suis comme Monsieur Trump. Moi aussi, je vais tout casser. Ce n'est pas sérieux. Monsieur le ministre, le gouvernement serait bien inspiré de retirer ce texte purement et simplement et ensuite de faire des textes qui correspondent au sujet que nous évoquons ici.
Dans le camp macroniste, ils sont une poignée à tenir la tranchée. Beaucoup ont déserté les bancs, gênés aussi d'avoir à voter systématiquement avec la droite et le RN. Le rapporteur du texte, l'ancien ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, ne cache plus ses états d'âme. On fera comme on peut avec les présents, nous confiait-il hier.
Il vient de passer sa première nuit en détention provisoire dans un quartier pour mineurs. Le collégien de 14 ans qui a mortellement poignardé une surveillante en Haute-Marne a été mis en examen hier soir pour meurtre sur personne chargée d'une mission de service public. Les proches de la victime, Mélanie, organisent une marche blanche ce soir au départ du collège de Nogent. Dans les Bouches-du-Rhône, l'explosion d'une conduite de gaz tôt ce matin à Saint-Martin-de-Crau. Information de nos confrères d'ici Provence. Très grosse flamme et important dégagement de fumée visible à des kilomètres à la ronde. 180 pompiers sont mobilisés actuellement pour tenter d'éteindre l'incendie. Pour l'instant, aucun blessé n'est recensé, mais plusieurs dizaines de riverains ont été évacués.
Inter 8h14 et la France en plein pic de chaleur, Alexis.
Oui, on va y revenir avec Marie-Pierre Planchon après ce journal. Jusqu'à 35 degrés attendus aujourd'hui sur la moitié nord, mais les orages vont balayer le pays. Il pourrait être localement fort. 17 départements en vigilance. Après un printemps anormalement chaud, parmi les plus chauds de l'histoire dans l'Hexagone, selon Météo France. Un avant-goût de ce qui nous attend d'ici à la fin du siècle. Certains agriculteurs anticipent d'ailleurs ces bouleversements. Illustration en Bretagne, où l'on tente désormais de faire pousser des agrumes. Mariam El-Kurdi s'est rendue à Auray.
Sous une serre transparente, des rangées d'arbustes. C'est la toute nouvelle culture testée ici sur cette exploitation maraîchère de 6 hectares. Une sorte de défi sur le sol breton.
Il y a des clémentines, des citrons et des oranges.
Christophe Girard, technicien agricole, est allé chercher les plants d'agrumes en Corse et il les a soigneusement sélectionnés.
On a choisi des variétés plutôt précoces parce qu'on n'a pas trop de soleil chez nous.
Pas trop de soleil, mais de plus en plus ?
De plus en plus, oui.
Réchauffement climatique oblige. Ici, on tente de comprendre comment faire pousser les productions de demain dans les meilleures conditions. Maëtte Leland, ingénieur agronome et responsable de cette ferme d'expérimentation.
Le végétal, c'est long, ça demande du temps. On a le droit de prendre ce temps et de rater ces années-là, là où un producteur ne peut pas se permettre de perdre autant d'années, quoi.
On prend le risque des producteurs, quoi.
Qu'est-ce que vous faites, là ?
On déroule une bâche pour éviter les mauvaises herbes, les plantes qu'on n'a pas forcément envie d'avoir en culture, et aussi pour ramener de la lumière.
Donc une grande bâche en plastique blanche ?
Oui, pour gagner de la luminosité.
Ce n'est pas la première fois que des fruits et légumes, entre guillemets, exotiques poussent ici. Essai réussi avec la pastèque ou encore la patate douce, que des agriculteurs bretons peuvent désormais cultiver de façon rentable. C'est le cas de Jeannette Lepaboul, maraîchère à Plouhinec.
Il fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus sec. Les produits changent. On s'est mis à la patate douce parce que ça se vendait. La pastèque, on y viendra forcément.
Et pourquoi pas demain, les citrons, ici, de tout petits, commencent à se former.
Il y en a beaucoup. Après, il faut laisser le temps quand même là, aux plantes s'enraciner. Mais là, c'est prometteur.
Pour l'instant, ça pousse bien.
Si ça continue de bien pousser, la première récolte devrait avoir lieu en octobre prochain.
Un reportage grand format dans le Morbihan de Mariam El-Kurdi. Et puis, ils ont dû réviser Rabelais, Colette ou La Bruyère. Autant d'auteurs au programme cette année. Les 535 000 élèves de première passent leur bac français depuis un gros quart d'heure maintenant. 4 heures de dissertation ou de commentaires de texte au choix avant l'oral dans quelques jours. Voilà, on pense bien à eux.
Oui, bon courage à eux. C'était le journal d'Alexis Morel. Il est 8h16 sur France Inter.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Marie-Pierre Planchon, il y a de l'orage dans l'air dès ce matin.
Oui, Marion, à cause de cette goutte froide située sur l'Irlande qui se prolonge vers le sud, qui provoque donc ce flux de sud-ouest qui fait remonter de l'air chaud, qui se confronte à de l'air froid en altitude. La chaleur a gagné pratiquement tout le pays, excepté près de la Manche où il fait un peu moins chaud. Actuellement, en Normandie, il fait 11, comme en Haute-Loire, d'ailleurs à la voûte Chillac, mais déjà 20 à Lyon et à Ajaccio, 22 à Nice et dans les Landes à Biscarrosse. Côté ciel, au nord du Lin qui relierait le nord de la Gironde à la Lorraine, on a pas mal de nuages qui commencent à déborder sur la Bretagne et les Charentes, donnant déjà des nuages, comme sur les Ardennes, puis au sud de cette diagonale. On a quelques grisailles au-delà du soleil sur le Languedoc et les côtes varoises et vers Bonifacio.
Et attention aux orages violents cet après-midi.
Oui, Marion, la goutte froide en fait sur l'Irlande descend jusqu'au sud et Météo France a placé donc 17 départements en vigilance orange orage qui concernent le nord-ouest à partir de 16h. 5 départements normands plus la Mayenne et la Sarthe, mais aussi la Somme et le Pas-de-Calais. Et on a 8 départements dans le sud-ouest, dont 5 de la Aquitaine, les Hautes-Pyrénées, plus le Gers et la Haute-Garonne, mais tout va évoluer et c'est à surveiller car ces orages seront violents, des rafales de vent attendues à 100 km par heure. Et la nuit prochaine, les Hauts-de-France seront touchés ainsi que les régions centrales demain et la façade est. Déjà cet après-midi, ces orages seront possibles aussi sur le relief alpin. Ailleurs, c'est estival et très chaud, contrasté entre les 22 à Pont-Aven et les 38 vers Dijon. Vous aurez 33 à Paris et 37 à Broide en Haute-Loire. En se rappelant le dicton du jour à la Saint-Antoine, les jours croissent du pas d'un moine.
Merci Marie-Pierre. Inter, 8h18.
Le 6-9 sur France Inter.
Géopolitique, bonjour Pierre Aski.
Bonjour.
Pierre, vous revenez évidemment sur les bombardements israéliens de la nuit contre l'Iran.
La surprise n'est pas venue des bombardements eux-mêmes. Ça fait des années qu'Israël planifie une telle opération. Mais du moment, l'émissaire américain Steve Witkoff, un proche de Trump, devait rencontrer ce dimanche au Sultanat d'Oman le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Une rencontre de la dernière chance pour un accord sur le nucléaire. Les informations des dernières 24 heures sur une possible attaque israélienne ressemblaient à une pression maximale sur Téhéran à la veille de ce rendez-vous. Alors que chacun dans la région se prépare désormais à la riposte iranienne qui serait en cours, la question se pose donc du rôle des États-Unis. Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a aussitôt déclaré que Washington n'était pas impliqué dans l'attaque israélienne qu'il a qualifiée d'unilatérale. Mais cette déclaration semble surtout destinée à protéger les intérêts américains de possibles représailles iraniennes. Il semble largement improbable qu'Israël se soit lancé dans cette opération militaire risquée sans le feu vert, au moins tacite, de Washington.
Improbable, pour quelle raison ?
Il faut remonter en arrière. Lors des deux brèves confrontations entre l'Iran et Israël l'an dernier, l'administration Biden avait interdit à Israël de frapper les installations nucléaires et pétrolières iraniennes. Israël a besoin du renseignement et de la couverture américaine pour de telles opérations. Avec le retour de Donald Trump, Benjamin Netanyahou a relancé son projet de destruction du programme nucléaire iranien. Mais le président américain a initialement choisi d'ouvrir une négociation avec Téhéran aux grandes dames d'Israël. Les négociations ont abouti à une impasse sur le principal point de désaccord, la demande américaine d'arrêt de l'enrichissement d'uranium par l'Iran. Téhéran a déjà répondu négativement. Hier, l'Agence internationale de l'énergie atomique a condamné pour la première fois en 20 ans l'Iran pour non-respect de ses obligations nucléaires. En clair, l'Iran enrichit l'uranium à un niveau qui permet de fabriquer l'arme atomique. Israël, de son côté, affirme avoir présenté aux Américains la preuve que l'Iran est sur le point d'accéder au seuil nucléaire, ce que Trump veut à tout prix éviter pendant son mandat.
Et Pierre, que peut-il se passer maintenant ?
Alors les frappes israéliennes ont cette fois été importantes, à la fois des cibles individuelles comme le chef des gardiens de la Révolution, le général Hossein Salami, tué cette nuit, et contre des installations d'enrichissement d'uranium connues comme Natanz, à 200 km de Téhéran. L'Iran ne peut pas ne pas riposter, mais tout dépendra de ses cibles. S'il s'en prend aux bases américaines dans la région ou aux installations pétrolières saoudiennes ou émiraties, on entrera dans une logique d'escalade qui n'en restera pas là. L'alternative serait une riposte symbolique pour limiter les dégâts et sauver le régime iranien. Dans ce cas, Israël pourra se féliciter d'avoir gagné du temps et repousser l'échéance nucléaire. Mais pour combien de temps ? Alors que Gaza continue d'être sous le feu israélien, l'ouverture d'un front avec l'Iran montre que la logique de guerre reste la norme au Moyen-Orient. Israël a la supériorité militaire et le démontre, au risque de s'enfermer dans la guerre perpétuelle.
Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique à suivre sur Inter. Le grand entretien, table ronde ce matin sur les jeunes, les écrans et les réseaux sociaux.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Bonjour, c'est Flavien Berger.
Les concerts d'Inter au Bataclan.
Je vous donne rendez-vous ce dimanche pour découvrir pour la première fois mon nouvel album Plouf en live.
Et je plonge, et je plonge, et je sors de mon champ de vision.
Flavien Berger en concert, c'est ce dimanche de 21h à 22h sur France Inter.
Il est 8h23.
France Inter, Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9.
Et un grand entretien ce matin consacré aux jeunes et aux réseaux sociaux, aux écrans également, après la mort à Nogent-sur-Marne d'une surveillante poignardée par un élève de 3e. Le président de la République, des ministres ont évoqué une série de mesures dont l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Nous avons une épidémie de violence chez les jeunes, ce sont les mots d'Emmanuel Macron cette semaine. Plusieurs invités aujourd'hui dans le studio de la maison de la radio, le studio 511 d'Inter, avec nous Sabine Duflo et David Gourion. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Sabine Duflo, vous êtes psychothérapeute familiale, spécialiste des écrans. Et quant à vous, David Gourion, médecin psychiatre, chef de clinique dans le service hospitalo-universitaire de l'hôpital Sainte-Anne. Vous êtes l'auteur de différents ouvrages sur l'adolescence, votre dernier en date. Ce que vous pouvez faire pour rendre votre ado heureux. Et là, pour le coup, on va plutôt parler des malheurs des adolescents ce matin. Et en duplex avec nous, le président de la Fédération française d'addictologie, auteur du livre Addiction aux éditions Mara. Abou Amine Benyamina, bonjour.
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 Vos questions, chers auditeurs, vos interventions sur ce sujet délicat et qui revient régulièrement dans l'actualité au 01 45 24 7000 ou sur l'application Radio France. On va partir de cette déclaration du président de la République. Nous avons une épidémie de violence chez les jeunes et c'est une phrase qu'il a prononcée directement suite à cet événement, donc à la mort de cette surveillante poignardée par un élève de troisième. Sabine Duflo, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse politique à ce qui s'est passé dans un collège ?
Alors, c'est un fait que les jeunes, les adolescents vont mal, vont très mal. On a presque la moitié qui souffre de troubles anxieux, dont 8% de troubles anxieux généralisés. Voilà. Donc, on sait que classiquement, le mal-être chez les garçons s'exprime plutôt sous forme d'une violence agie, coups, agressions, colère. Et chez les jeunes filles, sous forme d'une violence internalisée, on a une augmentation énorme.
Des violences contre soi.
Voilà, tout à fait. Punition auto-infligée, si vous voulez, scarification, tentative de suicide, ingestion médicamenteuse.
David Gourion, nous avons une épidémie de violence chez les jeunes. Est-ce que vous partagez le constat du président de la République ?
Écoutez, moi j'ai beaucoup hésité à venir, je suis très honoré de l'invitation, mais je me méfie toujours des réactions à chaud après un drame. Je trouve qu'il y a toujours une récupération politique et puis on entend vraiment, vraiment tout et n'importe quoi sur les réseaux.
Je vous remercie d'être là, oui. Et j'aimerais justement qu'on vous entende parce que vous êtes un spécialiste de l'adolescence, oui. Et qu'en l'occurrence, bon, ça n'est pas qu'une réaction à chaud parce qu'il y a plusieurs propositions, notamment des propositions de députés pour interdire la vente de smartphones au moins de 15 ans. Il y a eu la commission TikTok à l'Assemblée qui a révélé un fossé sidérant entre deux univers qui ne se comprennent pas au fond. Qu'est-ce que vous pensez de cette question des jeunes et des réseaux sociaux comme si les réseaux sociaux étaient une influence sur des personnes influençables, les adolescents, oui. Et que donc ils seraient amenés à passer à l'acte, par exemple, pour des actes extrêmement violents comme celui-là.
Oui, alors je redis, hein, et par respect aussi pour les personnes concernées, moi je ne connais pas cet ado ni cette situation, donc je vais parler en général et pas sur cette situation en particulier. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un drame, comme ça, et c'est le cas aussi dans les situations de harcèlement scolaire, on a une sorte de série de propositions et d'explications ultra simplistes, comme si, et qui peut croire, mais franchement, honnêtement, qui peut croire qu'un adolescent ou une adolescente qui va bien, enfin c'est du gros bon sens, irait d'un seul coup, parce qu'il ou elle a vu sur son écran une vidéo ou un film violent, irait prendre un couteau et planter des gens. Bien sûr que non, bien sûr que non. Alors, ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un ado ? Oui. C'est compliqué ce qui se passe dans le cerveau d'un ado. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une tempête sous ce crâne ? Et puis probablement que dès qu'on parle de choses un peu complexes et multifactorielles, qu'est-ce qui se passe à la maison ? Qu'est-ce qu'on a raté à la maison ? On le voit bien dans la série Adolescence, comme c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a pu voir ou ne pas voir ? Qu'est-ce qu'on a raté à l'école, qui je pense est un lieu incroyable pour la prévention, mais aussi pour l'exposition à des violences, à des situations de harcèlement, des situations compliquées ? Et qu'est-ce que surtout le système de santé n'a pas vu ou a manqué. Donc, dire toute cette complexité-là et dire ce qui se passe dans le cerveau d'ado, qu'en plus, on a du mal à comprendre. Hein, c'est pas eux qui sont déconnectés, c'est nous qui le sommes, parce que ils sont dans un univers, les temps changent, qui est différent du nôtre. Et moi, je trouve ça consternant des sortes de d'explications ultra simplistes avec des mesures dont on se doute tous bien qu'elles ne vont pas résoudre les problématiques de fond. Je suis un peu dubitatif.
Mais au-delà de ça, David Gourion, quand on dit épidémie, on dit aussi augmentation, et c'est un peu ce que disait Sabine Duflo, c'est-à-dire est-ce que vous, qui êtes psychiatre, vous voyez augmenter une forme de mal-être des jeunes qu'on pourrait dater peut-être de la Covid ou d'avant ou d'après ?
Je vais répondre à un mot, là encore, qu'on a tous du mal à entendre, hein, c'est la complexité. Certains jeunes, en effet, et vous avez parfaitement raison, Sabine, vont mal, voire très mal. Il y a une dégradation d'une population de jeunes particulièrement vulnérables, en particulier les jeunes filles adolescentes, avec une augmentation massive des tentatives de suicide, des suicides, etc. Mais on a aussi des populations de jeunes qui vont très bien et qui sont extrêmement épanouis. Qu'est-ce qui fait, et d'ailleurs c'est moi j'ai écrit un livre sur le sujet, qu'est-ce qui fait, plutôt que s'intéresser uniquement à ce qui fait qu'un ado ou un jeune va mal, qu'est-ce qui fait aussi qu'un ado ou un jeune peut aller bien?
Oui.
Et je redis, c'est multifactoriel, complexe, c'est pas qu'une histoire d'écran, c'est pas qu'une histoire de parents, c'est pas qu'une histoire de harcèlement scolaire ou sexuel, et on parle des violences sexuelles et sexistes, c'est pas que les addictions, c'est un tout, c'est une société, c'est un état d'esprit. Le problème, c'est que dès qu'on parle de complexité, on n'est pas entendu et on est très vite renvoyé à « mais tout ce que vous dites, c'est la culture de l'excuse ». Je trouve ça triste et débile de dire
la
ça.
La culture de l'excuse, ou en l'occurrence, avant de retrouver Amine Benyamina qui est en duplex avec nous, Sabine Duflo, il y a donc cette déclaration de la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, qui évoquait à ce micro cette semaine l'influence des réseaux sociaux parmi les facteurs importants qui conduisent à ces comportements violents. Il y a une corrélation. Comment expliquer ce lien de cause à effet ou de relation?
Moi, je voudrais dire une chose. Alors, je suis d'accord avec effectivement ce que vous dites. Les choses sont complexes, mais j'aime pas trop ce mot parce que c'est souvent une excuse pour rien faire. Et moi, je suis thérapeute familiale systémique et je pense et je considère que chacun de nous est le résultat des interactions avec son environnement. D'abord familial pour le petit enfant et ensuite les pères au collège, au lycée pour l'adolescent. Or cet environnement-là n'a plus rien à voir avec ce que vous avez connu, ce que j'ai connu, ce que nos parents ont connu. Il y a un élément qui fait la différence, c'est le temps passé devant les écrans et des écrans essentiellement ludiques. Voilà. Donc aujourd'hui on est à 6 heures de moyenne, 8-10 heures. Moi la consultation addiction ado écran que je dirige à Etap, hein, à Domaison, on est à 10 heures par jour. Et avec
10 heures par jour.
Et ça n'est pas du déclaratif, puisque je travaille uniquement avec le temps sur le téléphone portable, donc je n'ai pas les temps sur les autres écrans. Mmh. Et je regarde le temps sur leur portable, et je regarde aussi la moyenne passée, donc le détail sur les réseaux sociaux, jeux vidéo, etc. Pour les filles, la plupart du temps, je suis à 50 heures, 53 heures 57, par exemple, la dernière pour
50 heures sur
les réseaux sociaux en une semaine.
En une semaine.
Voilà. Donc là, si vous voulez, c'est évident que ça a une influence. Chacun de nous est et devient ce qu'il contemple. Donc, or, quelle est la logique de ce que les enfants voient? C'est une industrie du numérique, dont l'objectif n'est pas d'éduquer, c'est pas des objectifs vertueux, c'est de capter le plus longtemps possible l'usager pour piller des données, les revendre. Et pour les capter, il faut mettre en œuvre des mécanismes puissamment addictifs. Donc, les garder le plus longtemps possible, et avec, par exemple, des mécanismes de récompense aléatoire ou des choses comme ça, et évidemment, jouer des deux ingrédients qui ont toujours fait tourner le monde, le sexe et la violence. Donc, ils sont éduqués à ça. Ils sont éduqués à... vous voulez, ce que les parents essayent de faire, ou les enseignants. L'éducation, c'est l'apprentissage à la résistance, au contrôle, à l'effort. Et que font ces plateformes? Elles leur disent « cède ». Crac, passe ton temps à regarder justement des systèmes qui encouragent la comparaison, qui encouragent la violence. Comment voulez-vous qu'ils fassent à un âge où les capacités, leur capacité à résister, les fonctions exécutives ne sont pas encore matures, elles ne seront que vers 20-25 ans, à condition d'avoir été éduquées avant.
Amine Benyamina, vous êtes psychiatre, vous êtes addictologue. 11% des adolescents, d'après l'Organisation Mondiale de la Santé, auraient un comportement problématique par rapport aux réseaux sociaux. Ça veut dire quoi, problématique?
Oui, merci beaucoup de m'avoir invité et je suis d'accord à la fois avec David et avec Sabine. Et surtout je vais m'exprimer en tant que, en dehors du fait d'être psychiatre et addictologue, mais comme coprésident de la commission qui a remis le rapport au président de la République. Alors je vais juste faire un petit point d'historique. Lorsqu'il nous a demandé de remettre le rapport sur les écrans et les adolescents, c'était suite aux émeutes précisément de banlieue.
Après et donc, la mort de Naël.
Complètement, et David a raison, c'est vrai que le président et les politiques interviennent et réagissent lorsqu'il y a un gros événement. Alors, je donne un autre exemple, j'avais fait un rapport sur le Chemsect que personne n'a lu, que personne n'a vu, mais il a été ressorti lorsqu'il y a eu l'affaire Palmade. Donc on a affaire à ce type de réaction très très rapide, et puis ça, le problème c'est que ça, dans quelques jours ça va retomber. Alors pourquoi je dis, les deux ont raison? Parce que c'est très complexe et c'est la raison pour laquelle on a fait 29 propositions dans lesquelles il y a à la fois la problématique adolescente, la question de l'enfant et de l'adolescent dans la société qui est évacuée. On est dans une société qui a évacué l'adolescent. L'adolescent et l'enfant n'existent plus dans l'espace physique, il est dans l'espace virtuel. Il y a la grande problématique de l'hyperconsommation des écrans qui ne concerne pas que les adolescents, ça concerne tout le monde, mais qui prend des proportions problématiques lorsqu'on est dans une période où on grandit, on croit. Et il y a toute la technologie, tout ce qu'on appelle l'économie de la captation, qui a fait de nos enfants des clients potentiels en utilisant très clairement des ressorts, des mécanismes biologiques et psychologiques pour les capter. Donc on a affaire à un effet, un complexe qui est terrible et qui fait que probablement on peut avoir sur des profils vulnérables, je le dis bien sur des profils vulnérables, des cas comme on l'a vu. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a pas de lien direct entre la consommation des écrans et les passages à l'acte.
Ah.
Et là, je rejoins très clairement, évidemment, on l'a écrit, il y a ce qu'on appelle des phénomènes comorbides et des co-occurrences. Ne pensons pas qu'on va avoir des éléments directs. En revanche, on peut avoir des thématiques d'inspiration, on peut avoir des phénomènes de condensation, de précipitation à un moment précis. 14 ans, ça interpelle. C'est quand même un acte qu'on pourrait appeler... Alors, je ne connais pas, hein. C'est un acte quasi incongru, d'autant qu'on entend le procureur dire qu'il est froid, il est détaché vis-à-vis de ce qu'il a commis. Donc ça interroge et l'expertise nous donnera des éléments absolument importants. Je rappelle que les propositions que nous avons faites au président, elles sont 29. Et dans le préambule, nous avons bien dit que toutes les propositions sont interdépendantes, qu'il y a à la fin un questionnement sur l'adolescent de notre société, un questionnement sur la présence des écrans et du digital qu'il ne faut pas évacuer. Je vous rappelle que quand même, grâce à Internet et au digital, on a continué à vivre et à interagir pendant le Covid. C'est aussi un espace d'émancipation pour les jeunes. Donc il faut se poser la question. Et il faut aussi, très clairement, mettre en place une politique pour limiter le lobby des plateformes. Il faut que les politiques se parlent. On a remis un rapport il y a 14 mois. On ne sait pas qui va apporter les propositions. On ne sait pas comment on va arriver à mettre en place 2-3 éléments. Et surtout, j'arrêterai là, la presse n'a retenu que les bornes d'âge 5, 8, 10, parce que évidemment, ça interpelle. Mais ce n'est pas cela qui est important. C'est l'ensemble, c'est la combinaison de ces 29 propositions qui probablement nous aideront à faire avancer cette question.
Bonjour Florent et bienvenue sur France Inter.
Bonjour.
Merci de participer à cette table ronde. Vous aviez un témoignage et une question pour nos invités.
Oui, moi je vois bien autour de moi, j'ai des enfants que les réseaux sociaux font des ravages, mais pas que sur les enfants. Ils en font aussi sur les adultes et notamment sur des gens autour de moi. Et moi j'ai vraiment l'impression qu'on est face à une immense hypocrisie parce qu'on veut criminaliser les enfants en leur disant « toi, tu n'auras pas accès à cette technologie », alors que le problème, c'est cette technologie. Et donc, je pense qu'on n'ose pas, que c'est très facile de faire des déclarations en disant « plus de réseaux sociaux pour les enfants », mais que la vérité, c'est qu'il faudrait réguler ces plateformes, enlever tous ces algorithmes néfastes, interdire toute une série de réseaux sociaux, et que là, bien sûr, on est face au grand capital et on veut pas du tout réguler ça. Donc, pour moi, on est face à une hypocrisie, on veut criminaliser les jeunes, alors qu'en réalité, il faut faire le travail d'interdiction de tous ces réseaux.
Merci Florent. Signez à Sabine Duflo.
Oui, il a tout à fait raison. La régulation, elle doit concerner à la fois les enfants et les adultes, mais les enfants sont par nature les adolescents plus fragiles.
De quoi est-ce qu'on parle ? Vous avez une analogie étonnante avec l'alcool et le tabac.
Complètement, c'est exactement la même chose.
On vient de supprimer l'accès total aux écrans et aux réseaux sociaux avant un certain âge.
Ce sont des processus addictifs.
qui sont mis dedans. Vous prenez par exemple un jeu qu'adorent les adolescents, Fortnite. Mais... il y a 10 mécanismes addictifs dont le plus puissant, c'est la récompense aléatoire. Quand il y a un objet, une substance addictive mise sur le marché, on protège les mineurs.
Mais on peut jouer à Fortnite et ne pas passer à l'acte
violent. D'accord, mais quand
violent.
Vous n'avez pas la capacité... mais bien sûr, vous pouvez boire à 14 ans et pas devenir alcoolique, mais il vaut mieux commencer plus tard, monsieur. C'est tout. C'est exactement ça. Et on a mis beaucoup de temps pour l'alcool parce que c'était des enjeux financiers énormes. Là, c'est considérable. C'est bien plus important encore que l'alcool.
Oui, peut-être un point de vue basé sur des données scientifiques et plus que sur des opinions. Deux choses. La première, c'est que d'abord, la violence n'explose pas chez les jeunes. Elle est plutôt globalement en diminution. On découvre la violence chez les jeunes qu'on relie aux écrans. Mais enfin, la violence chez les jeunes, il suffit de relire Homère et Shakespeare, ça a toujours existé. D'accord ? Et ça révèle plein de choses, c'est une fièvre. Cette fièvre, elle peut être, comme dans toutes les fièvres, sous-tendue par des causes différentes. Premier point. Deuxième point, les plus vastes études qui ont été conduites sur l'impact des écrans sur les jeunes et qui ont été bien faites, c'est-à-dire longitudinales. Un suivi qui permet de voir quel est le sens de la flèche. Est-ce que les écrans produisent des problèmes de santé mentale ou de violence? Ou bien est-ce que quand un adolescent est fragile, il a tendance à passer plus de temps pour se réfugier? Montre, je suis désolé d'utiliser ce mot, la complexité, et montre aussi que pour certains adolescents, les réseaux sociaux peuvent avoir des effets vertueux. Ils le disent, ça peut m'aider à résoudre des problèmes, ça peut m'aider à me faire des amis. J'ai trouvé un support et je pense que les réseaux sociaux...
Donc l'interdiction avant 15 ans, c'est une aberration pour vous.
C'est un outil, en fait. Si l'outil est bien utilisé ou si l'outil est mal utilisé, ça fait toute la différence. Alors, moi je veux bien qu'on interdise. On a tenté la prohibition, on a vu les résultats que ça a donné. Je sais pas si on peut interdire les réseaux sociaux.
Vous parlez de la prohibition d'alcool aux États-Unis au 20e siècle.
On a vu, ça a été un résultat extraordinaire. D'accord. Et je suis même pas sûr que nos petits loulous, qui sont quand même beaucoup plus geeks et plus malins que nous, soient pas capables de déjouer les systèmes d'interdiction. Donc interdire, je sais même pas si on peut le faire. Si tant est que ce soit faisable, il n'est pas sûr que certains ados, oui, peut-être, on a dit, il y a des phénomènes de copycat, c'est dramatique, ils voient, ils se suicident tous en groupe. Mais il y a aussi l'inverse. Moi, j'en ai des ados qui m'ont dit, c'est parce que sur des réseaux sociaux, on m'a soutenu que ce soir-là, j'ai pas pris des médicaments, j'ai pas fait ma tentative de suicide. Je suis désolé, le monde est complexe, c'est comme ça.
Céline Duflo. Alors,
tout l'enjeu de l'adolescence, c'est la sociabilité, construire une sociabilité. Le réseau social, ça peut être un moyen de le compléter à condition qu'elle soit déjà construite. Mais une sociabilité qui fonctionne bien, elle se construit d'abord dans le face-à-face avec un groupe en nombre limité, avec une capacité aussi à contrôler ce que je dis par le regard, etc. Là, aujourd'hui, on a des adolescents qui arrivent dans l'adolescence, des préadolescences à 11-12 ans, la sociabilité n'est pas construite et ils vont directement la construire ou la déconstruire via les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est dramatique. Donc c'est la prohibition, l'alcool, c'est super, sauf que c'est mieux de commencer à 18 ans. Et ça a beaucoup aidé les adolescents qui est en 1956, une limitation à 14 ans dans les cantines, 1981 pour les lycéens.
Mais revenons en 2025, pas... vous avez été entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur TikTok, sur les mineurs, en l'occurrence. TikTok, c'est un vrai problème pour vous?
Alors, c'est les réseaux sociaux, effectivement. Et c'est, en général, c'est l'accès direct à une économie dont l'objectif n'est pas du tout l'éducation. Donc moi, je ne suis pas pour une interdiction des réseaux sociaux. Je suis pour l'interdiction d'un téléphone portable connecté avant 15 ans. C'est tout. Voilà. Parce que sinon, effectivement, ils vont, si on interdit TikTok, ils iront sur Insta, sinon sur Snap. De toute façon, ils se concurrencent. Et sinon, ils iront sur d'autres choses. Donc, on interdit la vente. Voilà. Et on va y arriver. Parce que c'est les mesures interdictives qui fonctionnent. Par exemple, je prends l'exemple du collège. Il y a des collèges qui ont lancé cette initiative de mettre un téléphone portable dans des casiers à l'entrée. Mais ça a une amélioration du climat scolaire qui est indéniable.
Alors, justement, ça correspond à cette proposition de loi socialiste et renaissance pour interdire les smartphones aux ados de moins de 15 ans qui va être déposée bientôt d'après le Figaro. Il y aurait aussi un label téléphone à service limité pour des téléphones sans réseaux sociaux ni Internet. Amine Benyamina, on a compris que tout ça était complexe, que c'était un ensemble de choses et que vous n'étiez pas forcément favorable à mettre en avant comme ça les limites d'âge, mais malgré tout, cette idée d'interdire les réseaux sociaux avant 15 ans, ce que veut le président, ou d'interdire les smartphones aux ados de moins de 15 ans, ce qui sera l'objet de cette proposition de loi, ça vous semble une bonne idée? Ça va dans le bon sens?
Alors, la bonne idée, c'est un peu ce qu'ont fait les Australiens, c'est-à-dire le premier ministre australien, il a interdit.
Évidemment, les réseaux à moins de 15 ans. Mais ensuite, juste après, pendant la conférence des presse, il a dit « Je suis sûr que cette interdiction ne marche pas, mais je voulais envoyer quand même un signal sur les risques liés à la consommation de manière précoce de ce type de support et de ce type de technologie. » Alors moi, je voudrais que derrière des énoncés de cette nature, on puisse faire un travail d'éducation, à la fois de la part des adultes, des parents, et puis des jeunes. La meilleure façon de se protéger, c'est lorsqu'on apprend à quelqu'un de nager. Alors, il faut apprendre aux jeunes ce que c'est que les réseaux sociaux, ce qu'il y a derrière. C'est, on ne pense pas donner les clés d'une voiture lorsqu'on a la majorité à un adolescent si on ne lui apprend pas à conduire.
Mais on ne lui donne pas avant les clés de la voiture.
Évidemment.
Voilà.
Évidemment.
Même si on lui dit que c'est dangereux, on ne lui donne pas avant.
On va devoir en rester là, malheureusement, monsieur Beniamina, mais c'est vrai que c'est la fin, malheureusement, de notre entretien. Il y a énormément de messages au standard d'auditeurs, des parents qui s'organisent, justement, pour essayer de limiter l'accès au téléphone portable. Et c'est vrai que les avis sont vraiment, vraiment divergents sur la question, notamment, de l'accès aux réseaux sociaux. Merci infiniment, David Gourion, Sabine Duflo. Merci à Bine Beniamina d'avoir été en duplex avec nous. C'est la fin de ce grand entretien. À suivre la revue de presse.
Merci.
Joe Nesbo, le maître du thriller scandinave, est de retour avec deux polars à couper le souffle. Retrouvez Harry Hall dans Eclipse Total en folio et découvrez les maîtres du domaine en série noire.
Grand frais.
Bon les gars, c'est le coach. Cet après-midi, vous allez faire l'entraînement sans moi. Je peux pas, j'ai grand frais. Dans leur équipe, il y a que des vrais pros. Disons que ça me change, hein, c'est...
Chez Grand Frais, nos experts passionnés connaissent leur métier par cœur. N'hésitez pas à leur demander conseil. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais.
Le meilleur marché.
Ce vendredi, jackpot record Euromillions de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Mercedes-Benz.
Il vous faut quoi pour passer à l'électrique ? Une grande autonomie ? Un SUV compact ou un SUV 7 places ? Un loyer attractif ? Et pourquoi pas une Mercedes ? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line des 399 € par mois.
Location longue durée 37 mois, 45 000 km. Premier loyer de 399 €, bonus écologique de 2 000 € déduit si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
8h45.
France Inter. Le 6-9.
Claude Askolovitch, ce matin, vous nous parlez de bruit.
Infernal, ce bruit qui nous vient des prisons quand on a le malheur d'en être le voisin, nous dit le Parisien qui en fait sa une. Tiens, il y a quelques jours, à Agen, à minuit, en plein quartier résidentiel, on a été réveillé par un feu d'artifice que les amis d'un détenu lançaient devant la prison pour son anniversaire. Et en temps ordinaire, il y a la musique, les sonos aux fenêtres. Et ce n'est pas qu'à Agen que les prisons de ville sont une nuisance. Le Parisien me dit quand même qu'on ne peut pas faire des prisons surpeuplées, des monastères. Mes pauvres voisins quand même. Vous le retrouvez, ce bruit des prisons, dans un article du site du Monde, tout à l'heure dans le magazine en kiosque. Mais du coup, pardon, lisant cette descente dans l'enfer de Fresnes, je relativise la souffrance des gens libres. Car à Fresnes, le bruit, ce sont des hurlements de détenus qui vont si mal. C'est un co-détenu qui écoute du rap toute la journée. Ce sont ces prisonniers qui se parlent en criant d'une cellule à l'autre, qui frappent sur les portes pour appeler un surveillant. Mais plus encore que le bruit, il y a l'odeur des toilettes dans les cellules, les punaises de lit, les moisissures sur les murs, la peur du viol dans les douches et les rats morts et vivants, rois des espaces exigus qu'on appelle promenades, où les détenus doivent sortir avec une bouteille en plastique à la main pour se soulager si jamais il n'y a pas de latrine, les rats qui avaient déboulé dans les jambes du cortège d'Emmanuel Macron, alors jeune président venu visiter Fresnes en mars 2018, muni de bonnes intentions et de références littéraires. Dans une cellule de 9 mètres carrés, trois détenus avaient expliqué au président leur vie quotidienne et la routine du suicide bouleversée, le président avait débloqué 270 millions pour rénover la vieille prison. Et depuis rien, quasi rien, une nation est jugée à travers ses prisons, avait dit alors Emmanuel Macron. Mais serons-nous jugés? Que pèserons-nous alors si la suppression des sursis souhaitée par Gérald Darmanin alourdit encore des prisons la charge humaine? Dans Paris-Normandie, vous lisez que des lycéens de seconde de Claude Monet au Havre ont écrit avec des prisonniers un recueil de nouvelles « Les mots font le mur » conçu dans des ateliers d'écriture où Tollards et Mômes se sont rencontrés. Les nouvelles parlent d'amour aussi, elles sont sans aucune censure. Allez, si on nous juge, j'aurai aussi de quoi plaider.
On parle aussi de muscles.
Comme n'en avait jamais eu James Magnussen, un Australien deux fois champion du monde du 100 mètres nage libre en son temps et qui, trentenaire, pour chercher $1 million, s'est engagé dans un programme de dopage pour battre le record du monde du 50 mètres. Il s'y est mis, flanqué d'un coach jusqu'ici respectable, qui est allé sur le web pour comprendre les adjuvants. Magnussen est monté à 114 kilos sur la balance. Il n'a pas battu le record du 50 mètres. Il était trop lourd, trop massif, gêné par ses muscles dans sa natation. Mais il s'est bien amusé. Et c'est cela qui me glace dans l'histoire que raconte le site de l'Équipe. C'est que Magnussen s'est amusé tout d'un sans contrainte. C'est qu'un autre nageur, un grec, Christian Goklomeyev, 31 ans, a été aussi heureux. Jamais médaillé olympique, mais lui, dopé plus efficacement, a battu ce record du 50 mètres, 20 secondes 89. Il a le million, il aura une maison pour sa famille et il est désormais la tête d'affiche des Enhanced Games, les Jeux augmentés, qu'un aventurier soutenu par le milliardaire de la tech Peter Thiel va organiser l'an prochain. Ça y est, nous y sommes. Alors vous lisez sur le site de l'Équipe une aventure de corruption que Aaron Ping de Souza, c'est l'aventurier, compare aux émancipations, à la Révolution française. Il dépasse et nos limites est un devoir sacré envers le potentiel illimité de l'humanité. Vous lisez ce genre de clichés qui sont un enfer. Joe Rogan, le podcaster du clan Trump, est dans le coup. Et il y a surtout Lige, un marché énorme dans la chimie de l'homme. Je lis cela et comme souvent, je cherche alors ailleurs dans la presse des raisons d'aimer et là me vient le vélo. Et oui, le vélo, il ne s'agit pas du dopage, mais de nos légendes de toujours. Le miroir du cyclisme reparaît à l'ombre de l'humanité. Il aurait été content, mon papa. Le miroir, c'était le grand journal du grand sport populaire de la grande famille communiste. Il se demande pour son retour si le Tour de France va survivre. Il fait dialoguer le pro-philosophe Guillaume Martin Guyonnet avec un livreur cycliste et l'immense Jeannie Longo avec le superbe Marc Adiot, Marc Madiot, qui jadis n'aimait pas le cyclisme des femmes, avons-nous avancé ? Curieusement ou logiquement, je la retrouve, Longo, dans une revue nommée Sphère, pour laquelle le mot splendide doit avoir été inventé. Cette revue régulièrement prend un univers et en dit toutes les merveilles. Et donc là, il y a Longo, qui avant le vélo faisait du ski. Elle était grasse, mais quel tour de cuisse ! Longo dialogue avec Bernard Thévenet, qui en 75 battu Mirx au Tour de France, et tous deux se souviennent. L'une, lui, d'une aile d'une fringale, lui d'une flaque de gazole sur la route et il tomba. Il se demande si les coureurs d'aujourd'hui sont heureux. On retrouve aussi dans Sphère Guillaume Martin Guyonnet. Cette fois, il nous décrit la société du peloton qui est, dit-il, menée par une aristocratie. Lui se veut citoyen. Il dit aussi que parfois le peloton, c'est Squid Games, car on abandonne le faible, celui qui tombe. Mais parfois aussi, un Romain Bardet s'en va secourir à la Philippe tombée. Et c'est beau. Mais Bardet, Nathalie Yanetta, je vous le laisse, vous allez en parler. Mais franchement, ces gens-là nous sauvent.
Et on parle enfin de l'EDF.
Les gars de l'EDF. Ouais, les gars de l'EDF qui avaient mauvaise réputation, jadis à Soissons. Des coureurs de jupons, disait-on de ces jeunes gens, que l'électricité publique formait dans l'Aisne. Je vous parle d'il y a plus de 60 ans. Alors du coup, quand Daniel, que son papa avait amené au bal en juin 64, elle avait 21 ans, a vu un beau garçon en costume impeccable, ils ont discuté toute la journée et lui a demandé s'il pouvait la revoir, elle lui a répondu qu'elle n'aimait pas les gars de l'EDF. Mais Marcel, qui n'avait pas encore 20 ans, lui a dit qu'il n'était pas comme les autres. Ils sont allés au cinéma, il est resté sage, il ne m'a pas pris par le cou, par la main, ça m'a peut-être plu, dit-elle. Lui dit « Je n'ai rien tenté car j'avais de bonnes intentions ». Et il nous raconte cela dans l'Union, Marcel et Daniel, la veille de renouveler leurs vœux à la mairie de Vailly-sur-Aisne pour célébrer leurs noces du diamant. Car bien sûr, ils se sont mariés le 12 juin 65, un an après leur rencontre, 21 ans après la mort du papa de Marcel, résistant breton tué par l'ennemi. Et lisant leur bonheur, leur constance, il a travaillé toute sa vie pour EDF Marcel et Daniel à la blanchisserie de l'hôpital, nous revient un monde dans lequel je suis né, où tout allait devenir possible et changeant, mais justement, ça ne l'était pas encore. Sachez que Daniel, quand il était jeune, avait été repéré pour tourner des films publicitaires, puis par un producteur qui voulait la faire tourner avec Belmondo, elle avait refusé car elle aimait trop Martel, ça dit le prix de ce gars de l'EDF. Mmh. Dans l'Ardennais, journal voisin de l'Union, on nous raconte un autre couple, 70 ans de mariage, lui séduisit elle en chantant Jean Sablon, vous qui passez sans me voir, quelle chance d'avoir été cela. Allez, j'en termine. Allez lire d'urgence dans La Croix la chronique de l'écrivain Pierre Adrian qui aime le vélo et qui ici nous dit sa visite dans une librairie de Pont-Aven, la pension Gloaneg, où il s'est abîmé dans l'écrivain Xavier Graal et dans sa fille Lucie qui perdit un enfant et en fit des poèmes. L'un d'eux s'appelle « Une croix sur le front » et rappelle à Adrian ce geste qu'avait sa mère sur lui, enfant la nuit. Et pourtant, sur le front de l'enfant que tu fus, bénissant ta présence, conjurant le mauvais sort, j'écartais chaque soir le duvet blond de tes cheveux pour tracer une croix, un rempart au chagrin, geste rituel et maternel, ritournelle magie pour que dure la grâce de t'avoir dans ma vie. Il dit, Pierre Adrian, dont je lis dans les DNA qu'il préface aussi le recueil d'un poète alsacien qu'on ne peut oublier, Albert Stricker, il dit, Pierre Adrian, que des joies minuscules remplissent nos vies. Il dit aussi qu'écrire, c'est être brisé. Mais quoi de plus vivant que cela ?
Claude Daskolovitch, 8h52 sur Inter, l'édito sport.
France Inter.
L'édito sport, bonjour Nathalie Yanetta.
Salut Ali, bonjour Mario.
Et cette semaine, vous vouliez nous parler d'un champion pas comme les autres.
Et vous le connaissez forcément. Son visage mutin, sa parole posée et claire, la puissance sur son vélo, lorsqu'un col ou une montée se dresse devant lui. Ce week-end, il a décidé de s'en aller. Romain Bardet quitte le peloton et c'est tout le sport français qui perd un champion singulier. Et pourtant pluriel. Bardet, c'est d'abord une échappée. Il y a 10 ans, pile le 23 juillet 2015, sur le Tour, il a planté tout le monde, entre Gap et Saint-Jean-de-Maurienne, pour s'offrir l'étape, 40 km tout seul, pour un triomphe et une émotion de gosse.
Elle est là, bravo, super grand bravo, deuxième victoire française, la victoire de Romain Bardet, tout sourire, l'Auvergne est en pleurs, victoire de Romain Bardet à Saint-Jean-de-Maurienne.
Un an plus tard, Bardet est un éclair sur une route orageuse et glissante. Presque tout le monde est tombé lors de cette 19e étape entre Albertville et Saint-Gervais. Même le maillot jaune, Chris Froome, s'est arraché la moitié du corps et a fini sur un vélo qui n'était même pas le sien. Ce jour-là, Bardet a fait exploser le peloton. Il finira même deuxième sur le podium du général à Paris cette année-là, mais il ne gagnera jamais ce qu'il considère être la plus grande course du monde. Alors avant de la quitter l'an dernier, il s'est offert un petit kiff. Première étape du Tour 2024, Bardet et maillot jaune.
Oh, c'est incroyable, bravo. Le regard, le sourire également de Romain Bardet. La victoire d'étape, 50 mètres, 40 mètres, 30 mètres. Romain Bardet qui remporte cette première étape du Tour de France.
Et cette semaine, c'est chez lui, Nathalie, qu'il a choisi de tirer sa révérence.
Oui, on l'a suivi avec Fanny Lechevestrier sur les antennes de Radio France. Le critérium du Dauphiné, sa course préférée. C'est sur ses routes qu'il a appris à pédaler et qu'il a senti qu'il se passait un truc quand il montait sur son vélo. Lui, le natif de Brioude, a eu droit à un hommage incroyable il y a quelques jours devant les siens. Une vie de vélo qu'il a vu défiler aussi vite que les descentes qu'il a avalées. La montagne, c'est son élément parce que oui, Bardet est un grimpeur.
Mais il est quand même un peu plus que ça, Nathalie, non ?
Est-ce que vous avez eu la chance de l'interviewer ?
Non, malheureusement.
Eh bien, sachez que vous manquez quelque chose.
Ouais.
Bardet est un grimpeur, penseur et un engagé. Un type qui lit Le Monde diplo et qui écoute France Culture toute la journée. Alors pas pour se donner un genre, mais parce qu'il a toujours questionné la vie, le monde et le vélo aussi. Marre, par exemple, d'entendre que toutes les perfs sont suspectes, alors Bardet milite dans une association qui prône un sport clean et éthique. Il ne s'est pas fait que des amis, pas plus quand il assume publiquement des convictions pro-européennes ou une vision du monde loin des fractures populistes. Il n'a jamais parlé pour les autres, mais il a une ligne de conduite. Je suis un citoyen. Ma parole ne vaut pas plus que ça, mais pas moins non plus. Longtemps, il a souffert de cette image de cérébral, d'un télo sur les bords, de rationnel aussi, comme si la machine c'était lui et pas son vélo. D'autant qu'en face, il avait le romantisme pur face à lui, Thibaut Pinot. On a essayé de les opposer, eux qu'on espérait comme les héritiers de Bernard Hinault et qui n'ont finalement jamais déplumé le blaireau. Bardet s'est apaisé. C'est vrai qu'avec la naissance d'un enfant, on pense davantage à lui apprendre à marcher, à lui qu'à rouler tout seul pendant des heures, des jours et des semaines. Il part bardé de diplômes, Robin, pour une deuxième vie qui ne lui fait pas plus peur que le Tourmalet ou les routes de Lombardie. Après le virage Pinot l'an dernier, eh bien, ça sera donc le dernier sommet Bardet. Avant, j'en suis sûr, pour lui, une autre bicycle race.
Merci Nathalie Yanetta et à vendredi prochain, Inter, 8h56.
France Inter.
Bonjour François Morel.
Bonjour, j'ai reçu une lettre d'Alexandre. Alexandre a bien pris soin de ne préciser aucune adresse, électronique ou postale, sur son courrier, afin que si l'envie me venait de lui répondre, je ne puisse le faire que publiquement, par le biais des ondes. Je ne connais rien d'Alexandre, même pas son nom, si ce n'est ce qu'il me dit de lui-même. Alexandre est de droite et il est né 40 ans après moi. Figurez-vous qu'Alexandre, malgré des différences qu'il considère notables, me signifie son admiration pour, je cite, « ses interventions qui, au-delà d'éclairer mes vendredis matins, sont également une lumière poétique sacralisant parfois l'inutile dans l'obscurité de notre quotidien. Merci à Alexandre qui pense m'avoir décelé. Je vous sens à gauche, tendance Brassens. Je me permets, cher Alexandre, de vous dire que votre supposition me paraît légèrement contradictoire. Le véritable anarchisme de Brassens me semblant être ni de gauche ni de droite. » Alexandre poursuit sa lettre. « Bien malheureusement, mon cadre de vie me contraint à être de droite et je regrette ô combien cette grandeur d'âme de ne pas être des vôtres, vous les gens de gauche. Si la phrase n'était pas légèrement bancale, je vous soupçonnerais, Alexandre, d'être également un fan de Fabrice Luchini. J'espère ne jamais vous rencontrer, on ne doit jamais rencontrer ses idoles, me dites-vous encore, avant de me préciser le fait que je vous admire, que nous n'ayons pas le même âge, que nous ne soyons pas du même bord et que je ne souhaite jamais vous rencontrer mais uniquement vous entendre durant mon café matinal de fin de semaine prouve bien une chose, mais je ne saurais dire quoi. Permettez-moi, cher Alexandre, de vous suggérer ce que cela pourrait prouver. Peut-être que la radio est simplement le média de l'intime, celui qui permet de mettre en relation des sensibilités différentes, des vécus distincts, des histoires dissemblables. Peut-être que la radio du service public, si critiquée, si mise à mal, a justement la vocation d'interroger, de questionner, d'échanger, de parler à l'auditeur sans lui servir démagogiquement ce qu'il pense afin de le courtiser, ni lui asséner autoritairement ce qu'il devrait penser afin de le régimenter, mais simplement lui donner un avis parmi d'autres, exprimé avec suffisamment de soin pour que l'auditeur, quel qu'il soit, puisse se sentir sinon conforté dans ses positions, au moins respecté. J'ai grand plaisir, cher Alexandre, cher jeune, cher droitiste, à m'adresser à vous chaque vendredi, même quand ma chronique ne vous est pas directement adressée comme ce matin. J'aurai également plaisir à parler à toute l'escouade de maçons qui, selon la ministre, ont déserté le service public et trépignent en attendant sa grande réunification. Alexandre termine sa missive par une formule de politesse fraîche et concise qui me servira également pour conclure ma chronique. Bisous.
Merci François Morel. À vendredi prochain. À suivre sur Inter, le journal.
Le maître du polar revient avec un nouveau héros. Découvrez Sous les eaux d'Avalon de Michael Connelly. Sur l'île de Santa Catalina, l'inspecteur Stilwell pensait couler des jours tranquilles. Mais un cadavre retrouvé dans le port va tout faire basculer. Nouveau personnage, nouvelle enquête, Sous les eaux d'Avalon, de Michael Connelly, aux éditions Calman Levy.
Pain au chocolat ou chocolatine?
Ah, je sais pas.
Mer ou montagne?
Aucune idée.
Volkswagen ou...
Volkswagen.
J'ai pas dit la fin.
Ah, mais Volkswagen. Oui.
C'est parfois facile de choisir. Surtout pendant les instants Volkswagen du 12 au 16 juin, avec le T-Roc à partir de 169 euros par mois. Pour l'achat d'un T-Roc VV édition 9, LLD 37 mois, premier loyer de 4 000 euros, puis 36 loyers de 169 euros, si acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable du 1er